Merci d'écouter RFI, 8h30 à Paris, 7h30 à Bamako et en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Pierre Boudias.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Les mots de l'ancien Premier ministre malien à l'occasion de ses vœux de fin d'année. Choguel Maïga qui se refuse cependant à critiquer les militaires au pouvoir. Mobilisation contre les violences faites aux enfants au Sénégal. Un phénomène mis en lumière par deux faits divers sordides ces derniers jours. Vous entendrez la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme dans ce journal. Une poudrière au large d'Abidjan. Le port de la capitale ivoirienne a été interdit hier à un navire possiblement victime d'une avarie. Il transporte près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, substance hautement inflammable. Et puis rentrer dans le flou pour les élèves d'internat kényan. 350 établissements ont été fermés début décembre pour manquement aux normes sécuritaires. À la veille du retour en classe, la question de leur réouverture reste posée. Il avait été limogé en novembre dernier après avoir critiqué la junte. L'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a présenté ses vœux à ses partisans pour l'année 2025, l'occasion pour celui qui entend rester engagé dans la vie politique du pays de s'exprimer sur la situation malienne, tout en soufflant le chaud et le froid concernant les autorités militaires. Décryptage avec notre correspondant régional Serge Daniel.
Je voudrais souhaiter à tout le monde très bonne et heureuse année 2025.
Les premiers mots pour présenter ses vœux aux militants venus à sa rencontre et Choguel Maïga répond aux articles de presse qui, se basant sur un rapport du vérificateur général, révèle qu'il est pointé du doigt dans des irrégularités financières.
Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un Premier ministre qui a fait près de 4 ans, il n'a volé que 35 millions ?
L'ancien Premier ministre malien dénonce ensuite un acharnement contre certains de ses militants. Sans nommément citer les auteurs, il prévient.
Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Même si on met tout le monde en prison, il faut gouverner par la vertu. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens, il finira toujours mal.
A-t-il été loin dans la critique ? Il apporte subitement son soutien à la junte malienne.
Et personne ne va m'amener à dénigrer les militaires. C'est que sans eux, en ce moment précis, on n'allait jamais faire aboutir notre combat.
Choguel Maïga ne le cache pas, il sera de plus en plus présent sur la scène politique locale.
Serge Daniel. Au Sénégal, la mort brutale de deux jeunes relance le débat sur les violences contre les enfants. Deux crimes distincts intervenus en seulement 10 jours. Un jeune talibé battu à mort par son maître coranique et une jeune fille de 12 ans étranglée par un homme de son entourage. Des décès qui ont provoqué l'indignation de la Commission nationale des droits de l'homme. La professeure Amsatou Sow Sidibé est présidente de la CNDH du Sénégal. Elle rappelle que les enfants ont des droits, qu'ils doivent être protégés par les adultes et les institutions.
La loi protège, mais la loi n'est souvent pas appliquée. C'est une occasion d'interpeller les parents pour qu'ils soient plus attentifs. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est à la maison ou à l'école. Aussi une occasion pour nous d'interpeller tout responsable qui pourrait mieux encadrer l'éducation religieuse. Les talibés sont maltraités dans beaucoup d'écoles religieuses qu'on appelle Dara. Ce qui est inadmissible. En tout cas, ce que nous demandons à l'État, c'est le renforcement des mécanismes de protection des enfants. Et il faudrait aussi une mobilisation citoyenne. Il faut que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise ait le sens de l'observation, de l'alerte précoce et de la dénonciation. Ça me semble essentiel en un moment où ces cas de violence atroce se multiplient de façon inadmissible.
Amsatou Sow Sidibé au micro d'Amélie Tullet. C'est un fait divers sordide qui mobilise également les féministes tchadiennes. Dans la nuit du 1er janvier, une jeune fille revenant du festival d'Ari de N'Djamena a été violée par plusieurs hommes. Ce viol collectif fait polémique dans le pays et les associations continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux. La Ligue tchadienne des droits des femmes avait choisi hier d'organiser un sit-in à quelques mètres du festival d'Ari. Nadia Ben Mahfoud, correspondante à N'Djamena.
Nous sommes sur les lieux où la jeune fille de 17 ans a été violée après qu'elle soit sortie du festival d'Ari.
C'est sur un rond-point en face du Palais du 15, là où se tient le festival d'Ari, que les militantes de la Ligue tchadienne des droits des femmes, la LTDF, se sont donné rendez-vous. Un lieu symbolique pour mieux se faire entendre, explique Mélodie Romance, une militante de la LTDF.
Nous avons l'habitude de mener notre lutte sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas si le gouvernement a pris en compte ou pas. Mais là, ça en est de trop. Et aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour nous rencontrer ici et puis continuer cette lutte sur le terrain.
Mais Nodi Trésor est responsable des affaires juridiques de la LTDF.
Nous sommes dans un pays de droit et la sécurité doit faire son travail. Le ministère de la Sécurité doit faire son travail. Mais pourquoi dire que la femme n'a pas le droit de venir se promener à une heure pareille? Donc il faudrait que les autorités en charge de la sécurité prennent leurs dispositions. Il faudrait aussi que le ministère de la Femme aussi fasse un travail pour pouvoir protéger ces femmes dans ce sens.
Selon un communiqué de la direction de la promotion et de la protection des droits des femmes, la victime bénéficie d'une prise en charge médicale et psychosociale. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
RFI, il est 7h35 en temps universel, même heure à Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui a fermé l'accès de son port à un cargo soupçonné d'avarie. Battant en pavillon de la Barbade, il transporte du nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable. Avec ses 180 mètres de long et 30 mètres de large, le navire mouille à environ 22 km au large en dehors des eaux territoriales ivoiriennes. Les précisions avec notre correspondant sur place, Abdulaziz Diallo.
Le navire Zimrida, arrivé en rade extérieure d'Abidjan le 30 décembre, transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 3 000 tonnes destinées à la Côte d'Ivoire. Prévu pour accoster ce lundi, il reste immobilisé après qu'une alerte a signalé une possible avarie de la cargaison. Dans un communiqué, les autorités portuaires ont ordonné que le navire reste hors des eaux ivoiriennes en attendant de nouvelles décisions. Une réunion d'urgence est prévue ce lundi pour, je cite, « un examen approfondi du sujet ». L'ampleur de la cargaison suscite de vives préoccupations. Elle représente cette fois le volume du nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth. En 2020, bien que le nitrate d'ammonium soit largement utilisé dans l'agriculture comme engrais, il devient extrêmement dangereux en cas de mauvaise manipulation ou de dégradation. Pour le docteur Souleymane Cissé, environnementaliste, les risques sont réels. Lorsque le nitrate d'ammonium est avarié, il devient instable et peut s'enflammer. Cela peut libérer d'importantes quantités de gaz toxiques et de particules fines dans l'atmosphère, ce qui constitue un danger majeur pour la santé humaine. Abdulaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Nouvelle percée des rebelles des M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La milice soutenue par le Rwanda s'est emparée hier de la ville de Masisi Centre, chef-lieu du territoire de Masisi, situé à 80 km de Goma, capitale du Nord Kivu. La localité est tombée à la suite de violents combats entre M23 et FRDC, appuyés par leurs alliés Wazalendo. Un nouveau repli de l'armée congolaise qui s'est accompagné d'importants déplacements de population, notamment en direction de Walikale, selon des sources locales. L'RDC aujourd'hui. Joseph Kabila se tient à la disposition du peuple, c'est ce qu'a assuré hier le coordonnateur de la cellule de crise du FCC, plateforme de l'ex-président congolais, dans un discours à l'occasion de la journée des martyrs. Raymond Tshibanda assure que Joseph Kabila est en congé sabbatique, mais qu'il n'a jamais pris sa retraite politique. L'occasion également de dénoncer la situation politique du pays qu'il décrit comme une dictature. Au Kenya, l'incertitude règne à la veille de la rentrée scolaire. Début décembre, le ministère de l'Éducation avait annoncé la fermeture de près de 350 internats en raison de leur manquement aux normes de sécurité. Cette décision était intervenue après l'incendie d'un internat dans le centre du pays. Il avait fait plus de 20 morts parmi les enfants. Les établissements fermés avaient un mois pour se remettre aux normes, mais à la veille de la rentrée, personne ne sait combien de ces établissements vont pouvoir rouvrir leurs portes. Gaëlle Alex.
Pour le gouvernement kényan, il n'y a pas de compromis possible. Les internats qui ne respectent pas les normes de sécurité resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation, Julius Ogamba, ajoutant que tous les efforts étaient fournis pour assurer un retour à l'école dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Éducation a néanmoins été incapable de fournir un chiffre précis du nombre d'internats qui restent fermés. L'Association nationale des parents d'élèves soutient cette décision gouvernementale. On ne peut pas jouer avec la vie de nos enfants, concède son président Silas David Obuatsa. Néanmoins, le flou de la situation inquiète. La question des frais de transfert des élèves qui ne pourront rejoindre leur établissement initial génère notamment des préoccupations. Les parents ont déjà du mal à joindre les deux bouts, poursuit Silas David Obuatsa. Il y a 3 semaines, l'Association des écoles privées du Kenya s'était engagée à ce que les établissements fermés soient remis aux normes pour la rentrée. Contactée par RFI, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso appelle les parents de délinquants à la fermeté. Le président s'exprimait hier après avoir reçu les vœux 2025 des forces vives de la nation. Alors que la violence des gangs est en hausse dans les grandes villes du pays, le chef de l'État estimait que le système éducatif ne pouvait pas tout faire tout seul. Attention, si vous voyagez en Mauritanie, les conditions d'entrée dans le pays changent à partir de ce dimanche. Les ressortissants étrangers soumis à l'obligation d'avoir un visa doivent désormais impérativement l'obtenir sous forme électronique avant d'embarquer. Et puis au Maroc, le ministre de la Santé appelle à la mobilisation face à la rougeole. Amine Tahraoui présentait cette semaine les chiffres de l'épidémie dans le pays. Depuis octobre 2023, près de 20 000 cas ont été recensés, un peu plus de 100 décès, dont la moitié concerne des enfants de moins de 12 ans. Conséquence notamment d'une vaccination en berne. Les précisions de notre correspondant Mathias Reynal.
L'épidémie de rougeole continue de gagner du terrain. C'est désormais le nord du royaume qui est touché. La maladie se répand dans une population qui n'est plus assez immunisée. Le docteur Taïb Hamdi est le vice-président de la Fédération nationale de santé au Maroc.
On a un problème de sous-vaccination, donc on n'atteint plus les objectifs. Le Maroc était champion de la vaccination des enfants, on atteignait toujours les 95-96%.
En cause, selon le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, l'hésitation des familles à faire vacciner les enfants, mais aussi la pandémie de Covid-19 qui a perturbé le fonctionnement normal des systèmes sanitaires.
Il faudrait réactiver d'une manière systématique la surveillance épidémiologique. C'est le seul moyen pour pouvoir cerner les cas de rougeole et les foyers de rougeole avant leur propagation.
Le ministère de la Santé a ainsi lancé un plan de riposte contre la rougeole pour détecter rapidement les contaminations. Une campagne nationale de rattrapage vaccinal pour les mineurs est également en cours.
Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est très efficace, c'est un vaccin, une vaccination à deux doses, ça protège pendant toute une vie.
Les professionnels de santé appellent à une mobilisation générale pour stopper la propagation de la maladie. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À bientôt, 8h42 ici à Paris, suite et fin d'RFI Matin avec vous, Gaëtan Plenet.
C'était le journal de Pierre Boudias, un journal à réécouter sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio.